l'Hebdo Région. 7 jours dans les pays de la Loire.
Et c'est avec Damien le boulanger.
Bonjour, l'actualité de la semaine dans votre région résumée en 25 minutes. C'est tout de suite dans l'Hebdo Région, une émission concoctée par les rédactions de La Roche-sur-Yon, Angers, Laval, Le Mans et Nantes. Se rassembler pour être plus fort, c'est le concept qu'ont appliqué 9 régions européennes cette semaine pour exprimer leur position face à la nouvelle politique agricole commune. Les Pays de la Loire faisaient partie du voyage. Fanny Brevet nous en parlera. Les fleurs d'Anjou ont désormais leur marque, produits d'Anjou, mais à peine lancé, le Conseil Général du Maine-et-Loire ambitionne de l'élargir à d'autres produits, nous l'entendrons. Les Ligériens consomment trop de médicaments, face à cela, l'Agence Régionale de Santé tire la sonnette d'alarme et à des lieux dans cette émission en Mayenne. En Sarthe, l'abbaye de Solesmes se prépare à dévoiler les richesses de ses sous-sols, 200 à 300 corps inhumés du Moyen-Âge, une découverte plus qu'intéressante pour les archéologues. Être bénévole et compétent dans les fonctions qu'on occupe, c'est chose possible dans les Pays de la Loire. Le Conseil Régional lance une série de formations gratuites aux bénévoles de la région, nous expliquera Anthony Torzek de Fidélité Nantes. Ce sera à la fin de cette Hebdo Région. Bienvenue.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Et on commence cette semaine cette Hebdo Région du côté de la Vendée où l'on retrouve Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et on débute cette actualité dans votre département par le dossier prison en Vendée. Michel Mercier fait machine arrière.
Le ministre de la Justice et des Libertés a annoncé mercredi aux sénateurs Bruno Retailleau et Jean-Claude Merceron le maintien des maisons d'arrêt de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Les deux établissements pénitentiaires seront rénovés afin de respecter les exigences posées par la loi pénitentiaire. Michel Mercier a également annoncé la création d'un nouvel établissement pour purger les courtes peines. Celui-ci sera implanté à Fontenay-le-Comte et devrait accueillir entre 150 et 190 personnes. Ouverture prévue en 2015.
Le Conseil général de la Vendée et la ville de Saint-Hilaire de Riez vont prochainement toucher les sommes qui leur sont dues suite à la marée noire de l'Erika.
Oui, 648 000 euros pour la station balnéaire et 2,4 millions pour le département. Ces deux institutions sont les seules parmi celles touchées par la catastrophe écologique de décembre 1999 à n'avoir accepté aucune transaction pour aller au bout de la procédure pénale contre la société de classification RINA et l'affréteur Total. C'est l'assureur de la société RINA qui verse actuellement les sommes fixées en mars 2010 à l'issue du procès en appel.
Et on reste dans les catastrophes naturelles, si l'on peut dire, avec la fin de l'enquête publique sur les plans de prévention des risques d'inondation de l'Aiguillon et de la Faute.
Et oui, les commissaires enquêteurs vont étudier et analyser toutes les remarques qui ont été déposées par les citoyens avant de remettre un avis au préfet. Ces PPRI vont définir notamment des zones non constructibles ou encore des zones dans lesquelles les propriétaires de maisons devront faire des travaux de mise en sécurité. Concernant les propriétaires qui n'ont pas souhaité vendre leur maison à l'amiable à l'État en vue de leur démolition, soit 79 résidences à La Faute et à l'Aiguillon. Une procédure en vue de l'expropriation sera lancée le 19 décembre et avant cela, une enquête publique est également lancée.
Je le disais en titre, lundi à Bruxelles, 9 régions européennes se rencontraient le triangle institutionnel de l'Union pour réagir aux propositions sur la future PAC.
Et cette politique agricole commune est en passe d'être réactualisée et le commissaire européen à l'agriculture, Dacian Ciolo, a ouvert le débat le 12 octobre dernier. Malgré des structures de production agricole différentes, les régions d'Europe se rassemblent car elles partagent une même vision de l'agriculture de demain. Rencontrer ensemble les trois pouvoirs politiques en place, commission, parlement et présidence polonaise, permet d'être plus fort. C'est en tout cas ce que pense Dominique Tremblay, conseiller régional des Pays de la Loire délégué à l'alimentation et à l'agriculture. Il était lundi à Bruxelles.
Avoir des postures communes sur ces sujets, c'est extrêmement important, notamment sur les questions de stabilisation des marchés, sur la question du financement, de l'accompagnement de l'agriculture, des aides. Donc voilà tout l'intérêt qu'il y a à construire ensemble des positions communes. Et ces 10 régions que nous représentions représentent à peu près 10% de l'agriculture européenne. Donc il est bien évident que c'est extrêmement important parce que la politique agricole commune dans nos territoires, en région des Pays de la Loire, formate et apporte quelque chose comme 700 millions d'euros. Ces grands enjeux qui se dessinent, c'est de travailler sur le projet de la politique agricole commune 2014-2020, c'est-à-dire sur ce qui est engagé pour le moment, hein, 317 milliards d'euros sur ce qu'on appelle le premier pilier des aides directes à la production et une centaine de milliards d'euros sur le deuxième pilier, c'est-à-dire l'accompagnement et le développement rural.
Les représentants des régions Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Andalousie, Émilie-Romagne, Toscane, Bavière, Haute-Autriche et Malopolska ont insisté sur la nécessité de travailler sur la stabilisation des marchés et revendiquer la préférence communautaire. Ces travaux donneront lieu dans les prochains mois à des amendements sur les propositions législatives de la Commission relatives à la PAC.
Et on termine ce tour de Vendée avec un mot de sport.
Et oui, du cyclisme, l'équipe Europcar reste en deuxième division, c'est-à-dire en Continental Pro. Ainsi, on a décidé l'Union Cycliste Internationale. La raison avancée est que l'équipe n'aurait pas récolté assez de points au classement. Cela ne nous empêchera pas de pédaler, a affirmé le manager de l'équipe vendéenne, Jean-René Bernaudot. Et puis un 14e skipper vient de s'inscrire officiellement pour le Vendée Globe, dont le départ sera donné le 10 novembre 2012. Le Paimpolais, désormais implanté à Lorient, Jean-Baptiste De Gentil, s'alignera pour la deuxième fois dans ce Tour du Monde en solitaire.
Merci Fanny, vous nous parliez depuis les studios de RCF Vendée à La Roche-sur-Yon.
L'hebdo-région au cœur des Pays de la Loire.
Et après la Vendée, direction le Maine-et-Loire, ici sur Angers, avec vous, Marie Agoyer, bonjour.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et dans l'actualité du Maine-et-Loire, une actualité politique avec mardi Gilles Bourdoulex, le député maire de Cholet, qui annonçait qu'il se présenterait en tant que candidat aux prochaines élections présidentielles.
Il représentera donc son parti, le Centre National des Indépendants et Paysans, afin, dit-il, de lui offrir une plus grande visibilité. Mais avant cela, il doit d'abord s'enquérir des 500 fameuses signatures, chose que l'ancien candidat du CNIP n'avait pas obtenue en 2007. Il s'était alors rangé du côté de Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui, Gilles Bourdoulex compte offrir à son parti une visibilité plus grande. Les grands axes de sa campagne seront dévoilés avant Noël et parmi eux, rétablir la fierté de la France et rétablir également l'équilibre de la nation via l'immigration.
Quand les fleuristes s'engagent à valoriser les produits locaux, cela donne naissance à un nouveau label « Produits d'Anjou ».
Le lancement s'est fait lundi à Saint-James-sur-Loire, sur le site du plus gros producteur de fleurs coupées de la région. Initiateur du projet, ce label a pour but d'identifier dans les boutiques les roses, lys et autres tulipes qui ont été entièrement produites dans le département du Maine-et-Loire. Un moyen de faire valoir le travail de ce secteur, mais aussi de promouvoir une démarche horticole plus écologique, vendre les bouquets réalisés ici, produisant moins de rejets de CO2 que de faire venir des plantes de Hollande. Au total, 42 fleuristes du Maine-et-Loire et un de Château-Gontier en Mayenne se sont d'ores et déjà engagés dans ce label qui se traduira par un logo en forme d'arrosoir apposé sur les fleurs avec le slogan « Produit d'Anjou ». Les explications de Guillaume Froger, co-gérant du producteur Froger Fleurs.
Le fleuriste, pour avoir une gamme complète dans son magasin, est obligé de s'approvisionner aussi sur d'autres espaces qui sont aussi des fleurs d'importation. Mais nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de privilégier l'approvisionnement local. C'est-à-dire que ce qui est le plus ridicule, c'est de mettre de l'énergie, du chauffage, de l'éclairage pour faire fleurir des fleurs en contre-saison. Donc ça, on aimerait que le fleuriste aussi soit messager de cet enseignement et puisse transmettre au consommateur ce qu'il se doit de faire. Soit il achète les tulipes du 1er janvier au 15 avril, qui correspond à la période naturelle du produit, plutôt que de les acheter au 14 juillet, comme je le disais, ce qui correspond un peu comme à acheter des fraises à Noël.
D'ores et déjà, le Conseil général de Maine-et-Loire qui soutient ce projet depuis le début veut aller plus loin dans l'idée. Son président Christophe Béchu s'en est expliqué au micro de RCF.
On est sur une terre où il y a énormément de produits agricoles et agroalimentaires et ce serait sans doute très intéressant de faire en sorte de dupliquer ce concept et de l'étendre à d'autres produits issus du maraîchage, issus de l'élevage pour que là aussi le consommateur sache au moment où il achète qu'il fait un acte de consommateur et en même temps de citoyen et de défense du tissu économique local.
Un concept qui promet du succès au regard du parcours réussi de la marque Produit de Bretagne.
Et on passe maintenant à une page sport avec un gros événement, changement de présidence à la tête du SCO d'Angers.
Et oui, le club de football angevin qui évolue en deuxième division accueille son nouveau président, Saïd Chaban, le PDG du groupe Connel. Il devrait remplacer très prochainement Willy Bernard, dont le procès pour fraude fiscale a été reporté au 6 février 2012. Willy Bernard ne s'est pas présenté au tribunal cette semaine, mais a tenu à expliquer les raisons de son départ. Sans vouloir aborder la question judiciaire, il affirme seulement avoir le sentiment d'être devenu un handicap pour le club angevin.
Et la volonté et le courage ont payé pour Frédéric Angeliome Billot.
L'Angevin handicapé moteur vient effectivement d'obtenir son brevet d'état d'éducateur sportif, ce qui signifie qu'il est désormais professeur de karaté. Pour les personnes handicapées, l'obtention d'un brevet d'état reste un véritable parcours du combattant et selon les membres du club de karaté Angevin, le chemin est encore long pour que les mentalités des pratiquants de cet art martial s'ouvrent pour admettre qu'un handicapé puisse les former à ce sport. Cette étape montre malgré tout qu'on est sur la bonne voie.
Merci Marie, c'était l'actualité du Maine-et-Loire depuis nos studios de RCF Anjou. À bientôt.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Troisième étape, direction Laval, où nous retrouvons Véronique Lara de Fidélité Mayenne. Bonjour Véronique.
Bonjour Damien. Cette semaine, dans l'actualité du département, les aides de l'État aux communes qui ont perdu leur régiment, des animaux euthanasiés près d'une usine chimique et puis, pas joyeux non plus, des statistiques inquiétantes sur la consommation de psychotropes en Mayenne.
Et on commence donc avec l'État qui aide les territoires économiquement touchés par la fermeture des casernes militaires.
C'est justement le cas de Laval qui a perdu son régiment et son école supérieure d'application des transmissions en juillet dernier. En compensation, 6 entreprises innovantes de l'agglomération lavalloise vont pouvoir bénéficier d'une aide de 1,2 million d'euros au total par l'intermédiaire du Fonds pour les restructurations de la défense. 200 créations d'emplois sont à la clé.
140 animaux issus de 3 exploitations voisines de l'usine Aprochim de Grès en Bouère ont été abattus dimanche dernier.
Ils ajoutent aux 142 bovins déjà abattus il y a un mois dans une exploitation voisine. Eux aussi contenaient un taux de PCB supérieur à la normale dans leur viande et dans leur lait. Depuis le mois de janvier dernier, l'activité de l'usine Aprochim, spécialisée dans le traitement du PCB ou pyralène, a dû cesser de moitié son activité par décision préfectorale. 10 mois plus tard, on peut dire que la présence de PCB dans les exploitations ne serait pas due à une nouvelle contamination compte tenu des mesures qui ont été prises. Mais les dernières analyses révèle que le taux de pyralène diminue significativement dans les matières solides, certes, mais il demeure élevé dans les matières gazeuses. L'usine Aprochim a été mise en demeure cette semaine, toujours par la préfecture, de prendre des mesures ad hoc dans les 15 jours au risque de se faire fermer les portes.
Et vous le disiez tout à l'heure en introduction, la Mayenne connaît une consommation atypique de psychotropes.
La Sécurité sociale de la Mayenne publie ces jours-ci en effet une étude sur la consommation de psychotropes dans le département et, constat inquiétant, les Mayennais en consomment beaucoup plus que partout en France. Les explications de Patricia Oudéyé, elle est chargée du service prévention de la CPAM 53.
9,3% de nos dépenses de médicaments en 2010 concernaient les médicaments psychotropes. Pour vous donner un parallèle, on parle beaucoup du diabète en France, qui est une maladie très répandue. Elle représentait 4,2% de nos dépenses. Donc on a presque deux fois plus finalement de remboursements qui concernent les médicaments psychotropes que les médicaments indiqués dans le cas du diabète. Donc c'est pour vous dire l'ampleur que ça représente. Alors après, sur les médicaments antidépresseurs, on a constaté en France que, donc toujours en 2006, 6 millions de Français étaient sous antidépresseurs et que dans la moitié des cas, c'était des ordonnances qui étaient injustifiées. Donc nous, on a regardé ce qu'il en était en Mayenne et on s'est rendu compte que près de 41% des personnes qui ont consommé des antidépresseurs en 2010 ont arrêté leur traitement avant 6 mois, alors que ce sont des médicaments qui sont indiqués, je dirais, au-delà de 6 mois. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de les prendre sur une période suffisamment longue pour qu'ils aient un effet suffisant. Donc effectivement, là, on voit aussi que finalement, la prescription de ces médicaments et leur consommation n'est pas toujours adéquate et n'est pas toujours, justifiée ou prescrite à bon escient. Donc là aussi, ça pose question en termes de santé publique, c'est que effectivement, les médicaments antidépresseurs ou médicaments psychotropes sont nécessaires, mais pour autant, il faut qu'ils soient prescrits et consommés, à bon escient et de manière justifiée.
C'était Patricia Oudéyé, chargée à la CPAM du service de la prévention. Le traitement du mal-être et de la dépression est une priorité majeure ici, quand on sait d'une part que ceci représente 70% des causes de suicide et que d'autre part, la Mayenne est particulièrement touchée par ce fléau.
On finit quand même sur une note un peu plus joyeuse. Ils sont vainqueurs de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des multicoques.
Et oui Damien, et c'est beaucoup plus gai que ce que je vous ai livré jusqu'à présent comme nouvelle cette semaine. Le bateau Mayennais Actual, skippé par Yves Le Blévec et Samuel Manuart, est arrivé dimanche matin à destination. Le tandem est le vainqueur de la 10e Transat Jacques Vabre de la classe Multi 50. Voilà Damien, l'actualité de cette semaine en Mayenne. À très bientôt.
Merci Véronique de Fidélité Mayenne et bon week-end à vous.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Et nous accueillons maintenant Adrien Blanc de RCF Le Mans. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Et on commence cette semaine en Sarthe par de la politique. Un proche de François Hollande part à la conquête du fief de François Fillon.
Oui, le premier secrétaire de la Fédération socialiste de la Sarthe, Stéphane Le Foll, est candidat aux législatives sur la circonscription de Sablé-sur-Sarthe, cette même circonscription où le Premier ministre a fait ses armes. Une telle ambition n'est pas nouvelle puisque c'est la troisième fois que Stéphane Le Foll se présente à Sablé. Mais cette fois, il n'aura pas François Fillon sur son passage et en plus, il aura le candidat socialiste à l'élection présidentielle derrière lui. Cela promet de grandes joutes politiques.
Côté économie, le MEDEF de la Sarthe organise l'opération « Vie ma vie de patron ».
Il a fait rencontrer des chefs d'entreprise et des chefs d'établissement scolaire. Le premier contact a eu lieu lundi soir. 15 binômes sont formés avec à chaque fois un patron et un proviseur de lycée ou un principal de collège de l'agglomération du Mans. L'opération « Vie ma vie » a pour but de rapprocher le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Certains patrons travailleront pendant une journée dans un collège ou un lycée et en échange, le proviseur ou le principal travaillera dans l'entreprise. L'inspection académique de la Sarthe soutient le projet car elle espère que ça aidera l'insertion des jeunes.
De son côté, la préfecture de la Sarthe encourage les automobilistes à ne pas s'adresser systématiquement à ses services carte grise.
Mercredi, elle a organisé une conférence de presse chez un garagiste de la banlieue du Mans pour rappeler aux Sartois qu'ils ne sont pas obligés d'aller au service carte grise de la préfecture s'ils achètent une voiture. Ils peuvent très bien faire le changement chez un professionnel agréé, garagiste ou concessionnaire auto. Par contre, cela coûte plus cher, en moyenne entre 10 et 30 euros qui s'ajoute bien sûr à la facture de 35 euros par chevaux fiscaux. La préfecture a lancé cette opération communication juste après la fermeture de 2 services carte grise sur 3 en Sarthe.
Toujours dans l'actualité de votre département, la gare du Mans pourrait être une des premières gares en France à proposer un espace de travail.
Elle devrait être une des 6 gares hexagonales à offrir des services pour un public d'affaires comme des bureaux, salons, salles de réunion et salles de vidéoconférence, avec bien sûr la connexion à Internet sans fil. La SNCF a signé avec la société Regus pour l'installation de ces services d'ici 2014.
Et le camp militaire d'Auvour au nord-est du Mans cherche à se débarrasser de dizaines d'obus enfouis dans le sol.
Ces munitions sont un vrai danger pour les habitants des communes voisines, alors le camp se lance dans une vaste opération de dépollution. Il fait venir une entreprise spécialisée de Paris pour déterrer tous ces obus et les détruire. Par mesure de sécurité, une 60aine de familles seront évacuées en décembre et janvier et la nationale qui relie Le Mans à Orléans sera fermée plusieurs heures par jour.
Vous nous en parliez déjà la semaine dernière à Adrien, un trésor archéologique se cache sous le cimetière de l'abbaye de Solesmes.
Oui, de 200 à 300 corps sont inhumés et certains dateraient du haut Moyen Âge entre le 7e et le 9e siècle. Les moines s'en sont aperçus en faisant des sondages pour des travaux d'agrandissement du cimetière. Maintenant, ils doivent attendre que des fouilles soient faites car ces squelettes intéressent beaucoup les archéologues et les chercheurs, comme Emmanuel Georges, ingénieur à la Direction régionale des affaires culturelles.
C'est une période qui est assez peu connue, assez peu renseignée, particulièrement intéressant pour connaître un peu un état sanitaire des populations de cette époque-là. On est dans un cimetière paroissial hein, où il y a des hommes, des femmes, des enfants. Alors l'espace est relativement réduit, 150 mètres carrés, mais le diagnostic a révélé déjà 3 niveaux d'inhumation les uns sur les autres, ce qui fait donc un nombre assez considérable d'inhumations. Bon, c'est aussi un nombre qui est commun dans des cimetières du haut Moyen-Âge qui ont connu une durée de vie de plusieurs siècles avec une très grande intensification en fait, du nombre d'inhumations au mètre carré. Donc on peut connaître dans ces époques un peu obscures du Moyen-Âge l'âge de la mort, les raisons de la mort. D'après leur âge, connaître un peu si ce sont des maladies, si ce sont des accidents qui ont laissé des traces sur les os, des fractures. Bon, il y a très très peu d'objets, hein. On est au sein de la chrétienté, donc les inhumations se font sans objet. sauf peut-être au tout début, pour le Moyen-Âge, où on peut trouver des boucles de ceinture qui sont plutôt jolies. Donc c'est essentiellement des aspects connaissances anthropologiques hein, d'une population en ces âges reculés du Moyen-Âge.
Le problème, c'est que ces fouilles doivent être financées par les moines de Solesmes qui cherchent des aides financières. Emmanuel Georges.
Quand les moines auront choisi leur opérateur, ils pourront également faire une demande de subvention.
Et tous ces objets qui vont être trouvés, ils vont appartenir à qui ?
À l'abbaye, qui en soit en fera don à l'État, à charge à l'État de mettre en valeur ce mobilier, ou si elle est en capacité, il en assurera la conservation.
Emmanuel Georges participait cette semaine aux journées archéologiques régionales au Mans où les chercheurs ont présenté leurs derniers travaux.
Et on termine cette actualité sartoise avec les 24 heures du Mans pour lesquelles les réservations sont désormais ouvertes.
Et oui, depuis hier, vous pouvez acheter vos billets pour la course automobile mythique. Les 16 et 17 juin prochains, les 24 heures fêteront leur 80e édition. Pour assister à la course, vous pouvez réserver vos billets sur le site internet lemans.org ou par téléphone au 02 43 40 24 65 40 24 65.
Merci Adrien, vous nous parliez, je le rappelle, des studios de RCF Le Mans. À la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Et on termine cette hebdo région à Nantes avec Anthony Torzec de Fidélité Nantes. Bonjour Anthony.
Bonjour Damien et bonjour à toutes et à tous.
Et dans l'actualité de la Loire-Atlantique, Nantes et Nantes Métropole ont décidé de rendre publiques certaines informations jusque-là réservées à leur service.
Oui, c'est ce que l'on appelle, Damien, l'ouverture des données publiques. Nantes était en retard dans ce domaine. Elle comble donc ce retard avec l'ouverture d'un site internet où vous trouverez des informations pratiques, infos trafic en temps réel, informations culturelles, la qualité de l'air ou encore les statistiques sur le logement ou les espaces verts. C'est à l'adresse data.nantes.fr. Les trophées Territoire Innovation Pays de la Loire ont été décernés mardi soir à Nantes par l'agence de presse API et le CCO, le Centre de communication de l'Ouest. Parmi les 191 dossiers déposés, 9 ont reçu ce trophée 2011 des entreprises innovantes. Le coup de cœur du jury va à la société MPO installée en Mayenne. Après avoir fabriqué des disques vinyles il y a plusieurs années, des CD ensuite, elle se lance à présent dans la production de cellules photovoltaïques.
Autre actualité dans votre département, des formations gratuites pour les bénévoles de toute la région.
Oui, de toute la région des Pays de la Loire. Il faut savoir que dans la région, on compte 55 000 associations et 700 000 bénévoles. Et pour justement ces bénévoles, la CPCA, la Conférence Permanente des Coordinations Associatives, met en place des formations gratuites à destination des bénévoles en responsabilité dans les associations des Pays de la Loire. 8 formations en fait sont proposées, la gestion, la recherche de financement ou par exemple la fonction employeur. Ces formations sont programmées de janvier à juin prochain dans toute la région. Objectif, former 600 bénévoles, car on demande de plus en plus de compétences à ces bénévoles. Jean-Marc Morel, de la Conférence permanente des coordinations associatives.
Même la petite association qui va gérer une petite activité de danse ou de sport dans une petite commune rurale, elle est aujourd'hui confrontée effectivement à une complexité. Et alors, les formations les plus demandées sont celles qui, de toute évidence, sont les plus compliquées à tenir. C'est tout ce qui est autour de la fonction employeur, tout ce qui est la partie financière, gestion, recherche de financement. On voit aussi monter un petit peu autour de la question de la communication. C'est les trois qui sont effectivement les plus demandées dans le cadre du dispositif CPCA.
À force de professionnaliser comme ça les associations, est-ce qu'on va pas finir par oublier l'esprit même de l'association ?
Il y a ce risque-là, c'est-à-dire que nous, on en est bien conscients. Souvent, nous, au lieu de professionnaliser, on dit qu'on rend compétents les administrateurs d'associations. On ne perd pas de vue la question des valeurs. C'est-à-dire quand on traite de la trésorerie, il ne s'agit pas d'avoir l'équilibre à tout prix. On dit voilà comment on va utiliser notre argent en lien avec le sens de l'action de l'association. Et donc, c'est pas la même chose pour un club sportif que pour une association de défense de l'environnement. Donc, on fait en sorte, effectivement, que au-delà de la question technique, on garde toujours présent à l'esprit la question des valeurs, parce que oui, on tient à ce que ça reste de l'associatif. Mais il y a ce risque, oui.
Et si vous souhaitez vous inscrire à ces formations gratuites financées par le ministère de la Jeunesse et le Conseil régional, une adresse internet cpca-pdl.org. Une mauvaise utilisation des médicaments peut être dangereuse pour la santé. C'est le message porté par le ministère de la Santé en cette Semaine nationale de la sécurité du patient. Selon l'ARS, l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire, 20% des personnes qui entrent aux urgences du CHU de Nantes sont là pour cause de mauvaise utilisation des médicaments. L'ARS entend donc sensibiliser les patients, mais également les professionnels de la santé. Le médicament n'est pas un produit comme un autre. Quelques 2500 bénévoles de la Banque alimentaire de Loire-Atlantique vont solliciter votre générosité ce vendredi et ce samedi à la sortie des grandes surfaces de Loire-Atlantique. L'objectif, comme chaque année, est de récolter des denrées non périssables qui seront ensuite données aux personnes en précarité. Une opération d'autant plus importante que nous sommes, vous le savez, en période de crise, avec une augmentation de la demande d'aide alimentaire de l'ordre de 11% pour cette année. C'est le rendez-vous unique chaque année pour découvrir les cinémas d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. La 33e édition du Festival des Trois Continents s'est ouverte mercredi à Nantes. Mais pas seulement à Nantes, pour la première fois, il se décentralise à Saint-Nazaire, La Turballe et Le Pouliguen. Au programme, une semaine de compétition de films étrangers avec un pays à l'honneur cette année, le Japon. Les Trois Continents, ce sont aussi des ateliers de formation aux outils de la coproduction internationale. Enfin, en voile, le Bollois Loïc Perron est parti mardi de Brest pour battre le record de vitesse autour du monde. Il est à bord du maxi trimaran Banque Populaire. Son objectif avec ses 13 membres d'équipage est de faire le tour du monde en moins de 48 jours. Et ça sera un record, Damien.
Et c'est sur ce projet fou que nous vous laissons à Anthony Torzek qui nous parlait de Nantes depuis les studios de Fidélité Nantes. Merci Anthony, bon week-end et à bientôt.
Merci Damien et à la semaine prochaine.
C'est la fin de cette hebdo région réalisée par les journalistes et les techniciens de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à vous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.